Patrick Artus, bonjour. Merci d'avoir rejoint la rédaction de Challenge. Il plane comme un air de guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Beaucoup d'industriels européens critiquent la politique menée par la Maison-Blanche, donc le fameux IRA pour Inflation Reduction Act, l'accusant de faire du protectionnisme. Qu'en est-il exactement ?
Alors, l'Inflation Reduction Act, hein, c'est une loi américaine qui a été passée par Joe Biden et qui propose des subventions sous la forme essentiellement de baisses d'impôts, hein, pour l'achat de matériel avec un minimum de contenu américain et essentiellement centré sur les matériels qui servent à la transition énergétique, les voitures électriques. Et oui, c'est centré sur ces deux biens, ces deux catégories de biens. Donc, il y a ces subventions aux énergies renouvelables, il y a des baisses d'impôts pour les achats de véhicules électriques, il y a des réductions d'impôts pour l'achat de matériel qui servent à la transition énergétique et qui sont produits en quantité suffisante proportionnellement à leur niveau de vente, à leur niveau de prix aux États-Unis. L'IRA, l'Inflation Reduction Act, ça correspond à 1,5% du PIB des États-Unis, hein, c'est à peu près 370 milliards de dollars sur 10 ans. Et donc, ça fait très exactement 0,17 points de PIB par an de baisse d'impôts et de subventions à cibler sur la transition énergétique et à nouveau sur les équipements utiles pour la transition énergétique. Alors, ça s'ajoute à d'autres baisses d'impôts et d'autres subventions qui avaient été passées par les autorités américaines, en particulier sur les infrastructures énergétiques. Il y avait un plan préalable. Alors, ce n'était pas que les infrastructures énergétiques, c'était aussi les infrastructures de transport, les ponts, mais aussi les infrastructures électriques qui étaient subventionnées. Alors, il y a une panique qui s'est déclenchée en Europe qui dit, ben voilà, on va avoir des délocalisations massives de production européenne vers les États-Unis. On a vu une inquiétude, par exemple, sur la production de batteries électriques en Allemagne, hein, et avec bon, l'attraction et l'attractivité des États-Unis nouvelle, hein, qui est renforcée par ces subventions. Alors, il y a plusieurs études très intéressantes qui ont évalué l'effet de l'IRA. Et ces études concluent en général qu'on surestime grandement la capacité de l'IRA à créer des délocalisations d'activités européennes vers les États-Unis. Et en particulier, il y a une étude du CEPI qui est très intéressante, hein, qui était très détaillée et qui va dans cette direction. Alors, quels sont les arguments de ces études ? C'est de dire, un, les aides à la transition énergétique ou à la réindustrialisation, etc., de l'Union européenne sont beaucoup plus importantes en montant que l'IRA. On arrive à 0,5 points de PIB par an, c'est trois fois plus que l'IRA. Quand on cumule les budgets européens, alors il y a des budgets européens qui s'appellent Repower EU, créer de l'énergie nouvelle en Europe, hein, et qui utilise en particulier ce qui n'a pas été dépensé du plan précédent européen qui s'appelait Next Generation EU. Il y a des fonds climat et transformation des entreprises qui ont été ajoutés. Et donc, il y a des aides publiques dans les pays. On regarde, par exemple, en France, il y a France 2030. Hein. France 2030, c'est 50 milliards d'euros, hein, sur 10 ans. Et donc, quand on cumule toutes les aides à la transition énergétique, relocalisation, etc., de l'Europe, l'Europe fait trois fois plus que l'IRA, ça fait trois fois plus que les États-Unis. Donc, premier argument. Et en plus, ces plans européens sont antérieurs au plan américain. Donc, la présentation qui consiste à dire, bah, les États-Unis, c'est de vilains protectionnistes et ils veulent attirer les entreprises européennes sur le territoire américain, bon, c'est un peu trompeur parce que finalement, l'Europe a tiré en premier, hein, avec des plans européens. Et puis l'autre argument, c'est que qui est assez intéressant, c'est que la condition de localisation aux États-Unis d'une partie importante des productions va faire qu'il y aura assez peu de projets éligibles. Il y a des gens qui ont fait des calculs qui montrent que il y aura une raréfaction rapide des projets éligibles parce que l'industrie américaine a des sous-traitants dans le monde entier et il y a assez peu de produits industriels qui passeront la barre du contenu américain suffisant. Hein. Et donc, c'est un autre argument. On peut conclure que finalement, c'est probablement pas une menace extrêmement forte, et il faut peser quand même cette menace avec la bonne nouvelle qui est que les États-Unis commencent à s'intéresser activement à la transition énergétique, quoi, qui est aussi une bonne nouvelle. Mais à nouveau, les évaluations qu'on peut faire disent qu'il y a beaucoup plus d'argent en Europe pour la transition énergétique et les relocalisations de production utiles à la transition énergétique, et que à nouveau l'IRA va très rapidement baisser de régime parce qu'il n'y aura pas, il y aura plus assez de projets éligibles à cause de cette condition de contenu américain qui est très sévère. On peut quand même regretter que l'Europe et les États-Unis n'aient pas eu une approche coopérative. C'est une approche non coopérative, donc les Européens aident les entreprises installées en Europe, les Américains aident les entreprises installées aux États-Unis. Et il y aurait pu avoir une approche coopérative qui est que les Américains aideraient toutes les entreprises et que les Européens aideraient toutes les entreprises. Et cette approche coopérative serait beaucoup plus efficace en termes de résultats que l'approche non coopérative. Alors, probablement, elle est difficile à faire passer au Parlement parce que le Parlement européen ou le Parlement américain n'aident pas des aides publiques qui sont des aides à des entreprises qui ne sont pas installées dans le pays. Mais ça éviterait les doublons. Il y aura une inefficacité liée au caractère non coopératif de l'IRA et des aides européennes, puisqu'il y aura des biens qui seront subventionnés deux fois ou on n'exploitera pas les rendements d'échelle suffisants. Donc c'est une approche assez... Et puis il y a un certain nombre de gens qui ont écrit que finalement, les grands gagnants de l'absence de coordination des politiques d'aide à la transition énergétique aux États-Unis et en Europe, c'est les pays qui sont ni les États-Unis ni l'Europe. Parce que ces aides, dans les deux cas, vont faire baisser fortement les prix des biens aidés. C'est des subventions, c'est des baisses d'impôts. Et donc, si je suis brésilien, ben, j'aurai accès à des productions, à des voitures, à des équipements produits aux États-Unis ou en Europe, à des prix beaucoup plus faibles. Et donc, il y aura un détournement de la subvention vers les pays tiers au détriment des contribuables européens et américains. Donc, à nouveau, on peut regretter ce caractère non coopératif. Mais bon, c'était inévitable d'un point de vue politique que les deux parties réagissaient de cette façon assez protectionniste. Mais d'un autre côté, bon, c'est le vrai démarrage de l'aide à la transition énergétique aux États-Unis. Donc il faut pas gâcher son plaisir non plus et d'avoir vraiment de l'argent public aux États-Unis et encore beaucoup plus en Europe qui va favoriser la transition énergétique.
Alors, c'est vrai que peut-être que j'ai vu passer cette étude du CEPI, mais en attendant, ce qui a été quand même un peu ce qui a créé un effet panique, c'est que certaines entreprises européennes ont immédiatement commencé à faire leurs calculs et elles ont fait des annonces. BASF, Solvay, Volkswagen, ils vont ouvrir une énorme usine de batterie aux États-Unis après avoir renoncé à un projet en Europe de l'Est. Tesla est en train de dire, Berlin, pour mon usine de batterie, c'était intéressant, mais finalement, je vais plutôt la faire dans le Nevada. Il y a quand même... Et alors, il y a manifestement, en dehors de la question de l'enveloppe, il y a manifestement plutôt une question du fait que c'est plus rapide oui, et plus simple.
Oui, c'est beaucoup plus simple. Bah, aux États-Unis, c'est une détaxe d'impôts et c'est extrêmement simple. En Europe, c'est très compliqué. Enfin, on a vu Next Generation EU, on a dépensé que la moitié de l'argent qui était prévu à cause des complications bureaucratiques, à cause qu'il faut déposer des dossiers qui sont acceptés à la Commission. Donc ça, c'est vrai. L'Europe pêche par la complexité des mécanismes de subvention européens. Faut pas non plus négliger l'hypothèse que les industriels européens veulent faire monter les enchères et donc passent le message à la Commission européenne, ça serait peut-être bien que vous mettiez plus d'argent pour qu'on reste en Europe. Donc il y a une petite partie peut-être de stratégie des producteurs, des industriels européens qui voient que la Commission européenne probablement va s'aligner sur les aides américaines. Donc faut pas surestimer le montant de délocalisation, je crois, que ça va créer. Et puis, honnêtement, à nouveau, l'Europe met beaucoup d'argent là-dessus. Et on voit d'ailleurs, depuis quelques années, une réindustrialisation petite, hein, mais quand même effective de l'Europe. C'est-à-dire que la production industrielle, les investissements directs en Europe, etc., industriels, augmente ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 25 ans. Quoi. Et donc, quand même, il y a une certaine efficacité des aides européennes et qui sont assez bien faites. Hein. Si on prend en France 2030, l'État ne fait pas tout. L'État donne des grandes directions et dit maintenant, entreprise, proposer des solutions, etc. Donc, c'est assez bien fait. C'est à nouveau, c'est modèle DARPA et pas modèle dirigiste européen traditionnel.
Mais il y a un exemple qui a quand même beaucoup marqué l'industrie française. C'est la décision, par exemple, de Safran de mettre son usine de frein carbone en stand-by, alors que il est sous le prétexte qu'effectivement, les coûts de l'énergie sont beaucoup plus élevés aux États-Unis.
Alors, il y a un complètement
beaucoup moins élevé.
Il y a beaucoup, il y a un autre argument complet. Alors, c'est transitoire. Hein. Les coûts de l'énergie en Europe, le prix du gaz naturel et de l'électricité ont baissé à peu près à 40 euros le mégawattheure, c'est-à-dire moins que le coût du nucléaire amorti antérieur. Hein. Et simplement, ces prix ne passent que progressivement dans les prix de consommation des entreprises. Alors, c'est des prix de marché, mais les entreprises ont des couvertures qui sont. Et donc, il va falloir du temps à l'Europe pour que les prix, effectivement, de l'énergie tant les entreprises baissent. Mais l'année prochaine, l'énergie européenne sera probablement un peu moins chère que l'énergie américaine. Et donc, on craignait vraiment, mais à nouveau, on est à 40 euros le mégawattheure, c'est-à-dire c'est moins cher que le prix du nucléaire amorti. Simplement, comme les entreprises ont paniqué, ont signé des contrats d'approvisionnement à terme ou des couvertures sur les prix de l'énergie, au pic du prix de l'énergie, ça explique par exemple que l'État français plafonne le prix de l'énergie pour les entreprises à 280 euros le mégawattheure, ce qui est quand même 7 fois le prix de marché aujourd'hui. Donc si les entreprises s'approvisionnaient sur les marchés, elles paieraient leur énergie 7 fois moins cher. Ça va se corriger. L'année prochaine, le prix de l'énergie pour les entreprises européennes sera beaucoup plus bas. Hein. Et donc, on peut craindre effectivement que la transition énergétique plus rapide en Europe qu'aux États-Unis, malgré ses aides publiques, implique un prix de l'énergie plus élevé. Mais à l'horizon de 2-3 ans, l'énergie européenne ne sera pas plus chère que l'énergie américaine une fois avalé le pic de 2022.
Et il y avait quand même, on a eu quand même l'impression que l'effet panique de l'IRA a marché un peu, puisqu'il y a eu une évolution assez, une inflexion dans la politique européenne quand même. C'est-à-dire que Thierry Breton, on a l'impression, a gagné un peu sur Margrethe Vestager. Et la politique européenne, oui, qui était quand même une politique concurrentielle, pro-concurrence. Et là, on est passé à une politique plus industrielle.
Non, les aides d'État sont autorisées, après examen, mais les aides d'État sont autorisées, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais effectivement, les deux programmes qui sont actés en Europe, les programmes européens, je ne parle pas des programmes des États, ils font un total de 650 milliards d'euros d'aide à la transition énergétique et à le développement des industries liées à la transition. C'est uniquement les aides européennes, c'est beaucoup plus que l'IRA, et c'est plus d'une fois et demi plus. Et puis, effectivement, il y a eu un choc qui est la nature des aides. Hein. On va approuver en Europe des baisses d'impôts, des subventions, beaucoup plus, des aides sectorielles, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement qu'avant. Oui, vous avez parfaitement raison.
Très bien. Merci beaucoup, Patrick Artus, et à bientôt.